C'est une petite phrase qui a suscité la stupeur dans les chancelleries européennes il y a une dizaine de jours. Si le peuple, je cite, si le peuple veut la peine de mort, alors les partis suivront sa volonté. Son auteur n'était autre que le président turc Recep Tayyip Erdogan. Et aujourd'hui, encore difficile de savoir si cette annonce cachait une volonté sincère de rétablir la peine capitale ou bien si elle n'était qu'un simple coup de bluff. Ce qui est certain, c'est qu'au cours des derniers mois, d'autres États dans le monde ont choisi de réinstaurer le châtiment suprême ou ont annoncé vouloir le faire. On pense à la Tunisie, aux Maldives ou encore aux Philippines. Au point qu'on peut se demander aujourd'hui si la cause abolitionniste n'est pas tout simplement en train de reculer. Pour en parler ce matin, on a le plaisir de recevoir un juriste actif depuis des décennies pour l'abolition de la peine capitale à l'échelle internationale. C'est vous, Pierre Depreux. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats de Genève. On vous remercie d'être avec nous jusqu'à 8 heures environ. Cette annonce du président turc, Pierre Depreux, elle ne vous a évidemment pas échappé. Pour vous, il faut la prendre au sérieux.
Je pense qu'il faut la prendre au sérieux, même si elle est peut-être du domaine de la gesticulation politique. Mais lorsqu'on parle de rétablir la peine de mort, il faut toujours prendre cela au sérieux. Cela dit, je ne crois pas qu'elle soit significative d'un recul de la cause abolitionniste, puisque cette cause progresse et de manière très significative depuis la fin de la dernière guerre. Et aujourd'hui, ce sont la majorité des États de la planète qui sont abolitionnistes.
Pour rester vraiment sur le cas de la Turquie, les États européens, y compris la Suisse, ont réagi immédiatement aux propos de Recep Tayyip Erdogan. On a par exemple entendu le secrétaire d'État du DFAE, Yves Rossier, dire que le rétablissement de la peine de mort en Turquie équivaudrait à franchir une ligne rouge. On a raison de considérer qu'un État ne peut plus être considéré comme une démocratie digne de ce nom dès le moment où il pratique ou rétablit la peine de mort.
Non, je ne crois pas. Le meilleur mauvais exemple, ce sont les États-Unis. Je crois qu'il y a des démocraties qui fonctionnent parfaitement bien, en tout cas quant à la règle des choix que peuvent se donner les individus qui forment l'État concerné. Mais il y a des règles juridiques, tout simplement. C'est que si la Turquie veut, ce qui est son souhait, faire partie de l'Union européenne, elle doit abandonner la peine de mort. Enfin, elle doit rester dans sa situation, qui est la situation actuelle, puisque la Turquie a aboli la peine de mort en 2004. Donc, elle ne peut pas la rétablir.
La formulation de la phrase d'Erdogan est en elle-même assez troublante, hein, puisqu'il avance l'idée que la peine de mort serait rétablie uniquement si le peuple le voulait. En clair, il laisse entendre qu'une telle décision pourrait être un acte démocratique. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cela ?
Mais ça, c'est la grande difficulté qu'il y a à gérer la volonté populaire d'un côté, et puis des principes juridiques qui sont pas seulement ceux qui peuvent être mis en cause lorsqu'on parle de peine de mort, mais de tous les droits humains et de tout le droit en général. On vit cela en Suisse quasi quotidiennement, avec toutes sortes d'initiatives qui font joujou avec les valeurs fondamentales. Maintenant, de vouloir commenter les affaires intérieures turques est quelque chose de délicat. Je crois qu'il faut se placer sur le terrain juridique. On peut bien sûr débattre de la peine capitale sur le plan moral, sur le plan philosophique, sur le plan même pénal, pour savoir si elle est efficace ou si elle ne l'est pas. Restons sur le plan juridique. C'est très simple. La Turquie a un vœu, qui est celui de rejoindre l'Europe. Si elle veut faire cela, elle ne peut pas avoir dans son droit la peine de mort, ni la rétablir.
On le disait en introduction, la Turquie n'est pas un exemple isolé. La peine capitale a été réinstaurée ces derniers mois en Tunisie, mais aussi en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Maldives. Oui. Elle pourrait bientôt l'être aux Philippines. Vous disiez tout à l'heure, attention à ne pas voir là-dedans un mouvement de fond, un phénomène d'ampleur. Mais alors, comment est-ce qu'on peut expliquer cette multitude d'annonces ? Est-ce que c'est lié au contexte sécuritaire très troublé dans lequel on évolue aujourd'hui ?
Oui,
ou est-ce que ça peut s'expliquer autrement ?
Probablement, mais bon, pour ce qui est des Philippines, on est là dans une exagération verbale qui est proche du délire, puisque le nouveau président philippin prévoit non seulement de soumettre à son parlement le rétablissement de la peine capitale, mais également de permettre aux policiers de tirer à vue, et dit-il, de pendre ceux qui auraient commis plusieurs crimes plusieurs fois, la première fois jusqu'à ce qu'ils meurent, et la deuxième fois jusqu'à ce que leur tête se détache du corps, et dit-il, j'ai du plaisir à cela parce que je suis fou. Donc on est vraiment dans le délire le plus complet, mais c'est à prendre au sérieux tout de même, puisque si les Philippines rétablissent la peine de mort, eh bien c'est un mauvais pas. Maintenant, le langage qui... la parole publique qui entoure ces projets et ces déclarations. On peut d'ailleurs songer aux déclarations de monsieur Donald Trump qui lui veut, dit-il, instaurer un système qui voudrait que tout homicide ayant pour victime un policier serait nécessairement puni de la peine capitale, alors que il y a un certain nombre d'États de l'Union qui ne sont pas, qui n'appliquent plus la peine de mort, qui ne l'ont plus dans leur système juridique. Tout ceci fait partie d'une sémantique probablement électoraliste, un peu populiste, pour s'attirer les faveurs d'une certaine frange de la population.
Quelle forme de pression internationale on peut envisager face à ces pays qui choisissent ou qui envisagent de rétablir la peine de mort? Dans le cas des Maldives, par exemple, on sait que le code pénal permet désormais de condamner des enfants à partir de l'âge de 7 ans à la peine capitale. On sait aujourd'hui que certains tour opérateurs ont choisi de boycotter ce pays pour protester contre ce durcissement. Est-ce que c'est ça la bonne réponse?
Alors probablement que oui. Il y a d'abord, il faut savoir que l'abolition de la peine de mort a fait l'objet d'instruments internationaux. Il y a des traités à portée universelle et des traités à portée régionale. Et ce n'est que par adhésion à ces traités que la peine capitale a été abolie, y compris en Europe. On a fait ce chemin progressivement. Et généralement en prévoyant une clause qui ne permet pas la réversibilité. Maintenant, s'en prendre à un État parce qu'il applique la peine de mort, c'est une chose difficile. On peut imaginer des sanctions économiques, on peut imaginer de manière probablement plus mesurée, simplement que cet État se trouve isolé sur le plan de l'entraide pénale. La Suisse, qui est assez exemplaire d'ailleurs en matière d'abolition, puisqu'il faut quand même rappeler que c'est déjà la constitution de 1874 en Suisse qui avait prévu l'abolition, et la peine a ensuite été rétablie. Et puis on l'a re-aboli en 1942 lors de l'entrée en vigueur du code pénal, a prévu notamment depuis longtemps que on ne coopère pas judiciairement avec les États qui ont dans leur arsenal la peine capitale, on n'extrade pas vers ces États. Donc ça peut être un instrument. Maintenant, parlant de la mise à mort d'enfants, c'est clair que la communauté internationale, mais ça ce sont des choix politiques à faire, il n'y a pas d'instrument juridique pour cela, peuvent décider d'isoler un État qui ferait cela.
Aujourd'hui, on sait que la peine capitale existe dans plusieurs dizaines d'États. Si je ne me trompe pas, c'est plus ou moins le tiers des États dans le monde qui la pratiquent. Mais en fait, dans les faits, l'immense majorité des exécutions, elles se concentrent dans seulement 4 pays. Oui. Arabie Saoudite, Iran, Pakistan et la Chine, sur laquelle on a finalement très très peu de chiffres. Comment est-ce que la pression internationale peut s'exercer sur ces très grands pays, très puissants, avec lesquels les relations ne sont pas toujours très simples?
Alors, moi je ne sais pas, les instruments juridiques sont pas très efficaces. En revanche, il y a bien sûr une action politique qui peut être menée, et je crois à titre personnel volontiers à la discussion, aux messages positifs qui peuvent être apportés dans ce cadre. Quand on parle d'abolition de la peine de mort, on doit toujours se préoccuper des victimes d'actes violents, et c'est comme ça qu'on peut faire progresser cette cause. Lorsqu'on ne s'en préoccupe pas, eh bien, on crée des rancœurs, on crée de la haine qui est la réponse à la violence et la nécessité de l'assouvir par des moyens violents, eux aussi. Moi, je crois que c'est la discussion qui peut amener ces États à changer d'attitude. Cela dit, on est actuellement dans un monde violent. Je pense que d'ailleurs qu'on est dans un monde dont la perception est plus délicate que sa réalité, puisque les actes de violence, même s'ils sont très spectaculaires actuellement, on pense à tous les attentats qui visent l'Europe et la France en particulier, sont en réalité, sur le plan du nombre, relativement peu significatifs. Mais c'est le sentiment que cela crée, et ces sentiments-là sont évidemment porteurs de tout ce qui peut faire des réactions allant dans le sens du rétablissement de la peine capitale. Donc il faut se préoccuper de faire passer un message et de s'occuper concrètement des victimes, ce que d'ailleurs la Suisse fait, de nouveau Suisse exemplaire, très bien avec un arsenal de règles de droit, c'est la loi sur l'aide aux victimes d'infractions violente qui a été qui est entrée en vigueur il y a longtemps et qui se préoccupe des victimes de manière très concrète.
Vous l'avez rappelé à l'instant, on évolue aujourd'hui dans un contexte de plus en plus violent, marqué notamment par la menace djihadiste. Et justement, on peut s'arrêter un petit moment sur le cas de la Tunisie, qui est particulièrement intéressant puisque c'est par le biais de la nouvelle loi antiterroriste votée il y a un an que la peine de mort a été remise, si l'on ose dire, au goût du jour. Il y avait un moratoire qui était en vigueur depuis 1991, si je ne me trompe pas. En clair, les crimes terroristes ont désormais puni la peine de mort. Pierre Depreux, quand on voit la barbarie dont font preuve aujourd'hui les groupes terroristes, est-ce qu'on ne peut pas comprendre qu'un État comme la Tunisie montre les muscles et durcisse son arsenal judiciaire pour faire face à ce nouveau défi ?
En dehors de toute logique, on peut le comprendre. Mais si on revient à quelque chose d'un peu sensé, on ne peut pas opposer la barbarie d'individus à la barbarie qui serait une barbarie étatique. L'État doit réfléchir à ce qu'il fait, il doit le faire sereinement, il doit le faire posément, à la suite de procédures juridiques établies, et non pas en réaction à des actes de violence qui sont, eux, des crimes. On ne peut pas répondre à un crime par un crime. Maintenant, il y a une confusion qui s'introduit dans cette problématique, c'est que il ne faut pas non plus mélanger la réponse judiciaire à des actes de violence à ce qui pourrait être des actes de guerre où un État a le droit de se défendre.
Il est 7h48 sur la première. Restez avec nous. Pierre Depreux, Laurence Bolomé, Esther Coco nous ont rejoints en studio. Elles ont lu la presse pour nous et la menace djihadiste est justement évoquée dans la presse avec le cas notamment de ce Genevois de 29 ans radicalisé qui a été arrêté à l'aéroport de Zurich à son retour de Turquie.
Une information de la Tribune de Genève reprise par 24 heures également et en collaboration avec le Tages Anzeiger. Double national suisse et tunisien, le jeune homme est accusé par la justice de lien avec une organisation terroriste. Musulman pratiquant, il a aussi fréquenté par le passé les milieux de l'extrême droite et les milieux antisémites. Les forces de l'ordre ont saisi des armes chez lui qu'il détenait de manière légale. Un de ses amis de 21 ans avait suivi le même parcours et a également été arrêté. Ils sont prévenus de soutien et de participation à une organisation criminelle. La question à ce jour, selon l'article, sera de déterminer s'ils ont bénéficié de soutien en Suisse. Outre ces deux cas genevois, il y aurait 9 autres cas en Suisse de personnes poursuivies pour des faits similaires.
Pierre Depreux, on reproche parfois à la Suisse d'être un peu trop laxiste avec ces djihadistes. Ils peuvent être condamnés très précisément à 5 ans de prison au maximum, c'est bien moins que dans les pays voisins. Est-ce qu'il y a une évolution inéluctable vers un durcissement ?
Bon, d'abord, dans le cas particulier, il faut imaginer qu'il y a une enquête pénale. C'est le ministère public fédéral de la Confédération qui a ouvert une enquête. Il a certainement dû trouver dans cette situation des motifs suffisants d'ouvrir cette enquête et d'obtenir la mise en détention de cette personne. Quelle était votre question déjà ?
La question d'un éventuel durcissement, lorsqu'on voit qu'un djihadiste valaisan, par exemple, pour l'instant c'est le seul djihadiste de retour du Proche-Orient qui a été condamné, ce djihadiste valaisan qui a été condamné à un travail d'intérêt public sur le thème de la paix, est-ce que c'est pas le signe d'une certaine clémence des juges en Suisse vis-à-vis des djihadistes ?
Parlons peut-être de la clémence du code pénal lui-même. Notre code pénal est relativement clément. Il a comme instrument de remise en circulation des individus qui peuvent même être dangereux, pas seulement les peines, mais également les mesures. Donc si quelqu'un devait être établi comme étant dangereux, cette personne pourrait faire l'objet de mesures, et notamment de mesures d'internement. Donc je ne crois pas. Non, je crois que nous avons les instruments adéquats pour répondre à cette problématique. Et pour ma part, je fais confiance aux juges qui ont à connaître de ces affaires.
Si on regarde quand même certains cas qui se sont produits dans les pays voisins, on peut quand même s'interroger sur l'efficacité des outils actuels. Le cas de ce djihadiste qui a assassiné un prêtre en Normandie, on lui avait mis un bracelet électronique. Évidemment, ça ne l'a pas empêché de commettre son geste. Est-ce qu'on peut vraiment combattre la menace terroriste avec les outils dont on dispose aujourd'hui ?
Mais probablement que non, de manière totalement efficace, parce qu'il n'y a pas de sécurité absolue. À défaut de quoi, vous devriez mettre un policier derrière chaque citoyen et un policier derrière chaque policier, parce que pourquoi un policier ne deviendrait pas djihadiste tout d'un coup ? Donc c'est une mission strictement impossible. Il faut, il faut, il faut vivre avec les dangers que représente la vie en société et réprimer ceux qui commettent des infractions. La prévention est un objectif socialement impossible.
Pour en revenir à la Suisse, il y a le cas tout à fait emblématique d'un jeune homme qui a été condamné récemment par le tribunal fédéral pour soutien à une organisation terroriste par le biais des réseaux sociaux. Aujourd'hui, il est emprisonné en attente de son expulsion vers l'Irak. Or, il a fait recours contre son expulsion. Et la question se pose aujourd'hui à la justice. Est-ce qu'il faut le renvoyer, sachant que son pays est en guerre? Est-ce qu'il faut appliquer de manière stricte le principe du non-refoulement qui est inscrit dans le droit international? Comment est-ce qu'on tranche ce dilemme, Pierre Depreux?
Je ne sais pas. Je ne connais pas cette affaire particulière. Mais il est évident que si cette personne présente concrètement un danger, elle ne sera pas remise dans le circuit en attendant son expulsion.
Mais on entend dans tous les plus largement de plusieurs voix, et notamment à la droite de l'échiquier politique, qui veulent remettre en cause certains principes du droit international, comme ce fameux principe du non-refoulement, au nom justement de la sécurité collective, de la sécurité des Suisses. Est-ce que vous trouvez cela légitime, ou est-ce que cela vous inquiète un petit peu de voir cette remise en cause du droit international?
Mais je suis inquiet de revoir, de constater qu'on remet en cause tout le droit international, pas seulement ce principe-là. On a consacré plusieurs décennies, même plusieurs siècles, depuis les grandes révolutions, beaucoup d'énergie, beaucoup d'intelligence, beaucoup de savoir-faire, sans beaucoup de tâtonnements d'ailleurs, ça s'est fait de manière assez linéaire, à la création d'un édifice juridique remarquable qui pose des valeurs d'organisation de la vie sociale. Et puis aujourd'hui, parce que notre société connaît des difficultés, on voudrait remettre en cause tout cela. C'est assez fâcheux. Moi, je suis fondamentalement partisan, très fermement partisan, du maintien de nos valeurs, celles qui sont inscrites dans la Constitution helvétique, qui se trouve d'ailleurs reprise dans des textes supérieurs, la Convention européenne des droits de l'homme. N'y touchons pas. Le droit international et les libertés publiques, celles qui se trouvent dans notre Constitution, ne sont pas seulement faites pour les périodes de beau temps, mais elles sont aussi faites pour les périodes difficiles. Et c'est là au respect des principes fondamentaux qu'on voit la force d'une nation. Je reprends là les termes d'ailleurs de M. Burkhalter, dont je salue le travail et l'engagement pour la défense des droits humains.
Donc très concrètement, cette initiative de l'UDC qui demande à ce que le droit suisse l'emporte systématiquement sur le droit international, pour vous, elle est dangereuse?
Oui, mais ça c'est... Bien sûr qu'elle est dangereuse, c'est une manière de vouloir réinventer le monde, c'est de vouloir poser le droit est organisé de manière pyramidale, vous avez les normes supérieures à la pointe de la pyramide et puis les règlements tout au fond. L'UDC voudrait faire tenir la pyramide sur la tête, ça ne tiendra pas, c'est simplement inconcevable.
Revenons peut-être à la presse du jour, la presse qui revient aussi sur le transfert de 15 prisonniers de Guantanamo aux Émirats Arabes Unis.
Oui, direction en effet les Émirats Arabes Unis pour ses ressortissants essentiellement yéménites. Selon l'article que l'on trouve dans La Liberté, Le Courrier, Le Journal du Jura et Le Quotidien de la Côte, il s'agit du transfert le plus important en un bloc annoncé par les autorités américaines depuis l'ouverture de la prison. Mais il restera encore 61 prisonniers malgré la promesse réitérée en février dernier du président Barack Obama de fermer cette prison sise à Cuba. Trop tard donc pour lui, reste à savoir quel prochain président la tiendra, cette promesse. Alors les spécialistes, les professeurs d'une université spécialiste en droit américain ont peu d'espoir. Donald Trump, pour eux, inconcevable d'envisager une réponse éthique et fondée sur le droit de sa part. Hillary Clinton, bon, elle pourrait assurer quelques transferts individuels au cas par cas. Il faut dire que les profils très différents des détenus complexifient, selon l'article, les libérations. Certains ont déjà été condamnés, d'autres sont déjà annoncés comme transférables et puis les autres, eh bien, ils restent dans une zone extrêmement floue.
Pierre Depreux, est-ce que cette libération pourrait annoncer la fermeture imminente de Guantanamo qu'on attend, que beaucoup attendent en tout cas depuis plusieurs années?
On l'attend depuis 15 ans puisqu'elle a été ouverte elle a 15 ans cette prison. C'est un bel échec. Et c'est un échec du président Obama, il n'en est pas le seul responsable puisqu'il a eu un Sénat hostile. Il faut dire de Guantanamo que c'est une honte. Guantanamo, c'est le lieu où sont détenus des gens, contrairement au droit fondamental à la liberté, qui ne sont ni accusés, ni n'ont été jugés. Oui, il faut espérer que ce déplacement de quelques 15 détenus actuellement, c'est le début de la fin. Mais malheureusement, ça risque de durer.
Sur un tout autre registre, Pierre Depreux, la presse alémanique revient sur le procès d'une mère pédophile qui s'est tenue hier à Saint-Gall. L'accusé a été condamné à 22 mois de prison, une peine considérée comme plutôt clémente au vu des faits reprochés, Esther Coco.
Oui, 22 mois de prison pour une mère pédophile qui a abusé sexuellement de son fils de nombreuses fois entre sa 7e et sa 14e année, le forçant à des jeux sexuels dont elle envoyait les photos à son gourou. Eh bien, c'est justement son appartenance à une secte et sa bonne collaboration avec la justice qui lui ont valu une peine peu sévère. Pour de tels délits, la peine peut atteindre normalement jusqu'à 7 ans de prison, relève le Tages Anzeiger. Il faut dire que la justice est peu confrontée aux cas de femmes pédophiles. À Zurich, seuls 22 cas avérés ces 9 dernières années, contre près de 700 délits de pédophilie commis par des hommes. Dans le Blick, un psychiatre estime que les abus sexuels commis par des femmes sur des enfants sont souvent minimisés, alors que quand il s'agit d'abus pédophiles commis par des hommes, la société réagit de manière presque hystérique, accusant parfois des individus à tort.
Pierre Depreux, assez rapidement, parce qu'il nous faut conclure, cette clémence relative vis-à-vis des femmes, lorsqu'il s'agit d'actes pédophiles, c'est quelque chose de choquant?
Non. Faudrait connaître un peu plus cette affaire, mais non, je ne crois pas. J'ai le sentiment d'abord que ce n'est pas une peine qui est extrêmement clémente, puisque se situe à peu près à moitié d'échelle légale. Mais il est vrai que les femmes sont généralement condamnées un peu moins sévèrement que les hommes.
On vous remercie, Pierre Depreux, d'avoir été notre invité ce matin. On rappelle que vous êtes l'ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats de Genève. On vous souhaite une excellente journée.
Merci, parlez-moi à vous tous.